Bonjour Radio Galère, attendez, je règle mon micro. Et bienvenue sur cette deuxième émission, cette deuxième petite émission sur la musique de jeux vidéo, qui était à la base, il devait y en avoir qu'une, mais au final il y en a une deuxième. Je suis donc Maëlie. Et vous êtes bien sur le 88.4 sur Radio Galère à Marseille. Et je suis très contente d'être de retour ici pour pouvoir vous parler de ce qui me plaît. Et donc, comme vous l'avez compris lors de l'énoncé, de ce petit énoncé, on va parler aujourd'hui de musique de jeux vidéo à nouveau. Et en particulier, aujourd'hui, nous allons parler de musique expérimentale. Donc, de comment en fait le milieu de la musique expérimentale a pu se développer dans le milieu donc du jeu vidéo et pourquoi, en vous faisant écouter bien sûr quelques petites productions musicales qui ont été produites évidemment. Excusez-moi, je n'ai pas de mots aujourd'hui. Pour commencer ce petit épisode. Je vous propose une petite diffusion d'un morceau qui sera un peu une introduction du coup à ce dont on va parler dans la première partie de cette émission, c'est-à-dire la manière dont les limitations techniques dans le jeu vidéo ont fait évoluer la musique et comment elle a été réceptionnée, comment elle a été créée, tout ça, et donc à partir de ces limitations dont on parlera après cette diffusion. Bonne écoute. De retour en direct, donc vous venez d'écouter, j'ai pas précisé avant de le diffuser, mais c'est Sunrise and Wanet Theme, qui vient du jeu vidéo Earthbound, ce thème a été composé par Keiichi Suzuki et Hirokazu Tanaka, C'est un Earthbound. Il faut évidemment, avant de parler de cette musique, il faut faire un petit contexte qui nous permettra d'analyser plus en profondeur et bien cette musique et cette esthétique qui est très particulière aux jeux vidéo. Earthbound, c'est un jeu qui est sorti dans les années 80-90, qui est sorti sur la Super Nintendo. Donc c'est la deuxième console de Nintendo. Et ce qu'il faut savoir avec les anciens systèmes, les anciennes consoles, c'est que les moyens étaient très limités. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de mémoire sur la console, il n'y avait pas beaucoup de mémoire sur les cartouches non plus. Et ça fait que les compositeurs devaient, et les programmeurs aussi, parce que c'est un travail main dans la main, dans le jeu vidéo on travaille main dans la main évidemment, les compositeurs devaient trouver des solutions pour faire tenir la musique sur la console, mais sans que ça soit trop simpliste, on va dire ça comme ça. À l'époque de la Super NES, donc la toute première console de Nintendo, je vais me concentrer sur ça parce que c'est le sujet dans lequel je suis le plus confortable, mais en tout cas, beaucoup de personnes connaissent notamment le thème de Mario, des trucs dans le genre. Et ces thèmes-là, quand on les entend, c'est les thèmes en 8 bits, tout le monde voit un peu cette apparence un peu simpliste. Mais cette esthétique a pu commencer à évoluer un petit peu à partir de la Super NES, parce que les moyens techniques ont évolué, et donc ils ont permis d'avoir plus de sons, plus de choses disponibles pour travailler avec. Mais évidemment, ça restait quand même très... très rudimentaire, voilà, c'est le mot que je cherchais, et il a fallu trouver des moyens. Et donc ces moyens-là, ça a été l'utilisation du MIDI. Le MIDI, c'est une abréviation pour Musical Instrument Digital Interface, donc littéralement ce serait un instrument musical digital interface, donc une interface qui permet à des instruments électroniques de communiquer les uns avec les autres. Et ce qui est pratique avec le MIDI, c'est que c'est basiquement juste des informations programmées dans un système, c'est pas un enregistrement MP3, par exemple. Et un enregistrement MP3, ça prend pas beaucoup de place à l'heure actuelle, mais à l'époque, ça prenait quand même une certaine place, et dans un milieu où il fallait avoir un maximum de place pour faire tenir le jeu, quand même le jeu qui était la chose la plus importante du jeu vidéo, sans jeu il n'y a rien, eh bien il fallait trouver donc un moyen de compresser ces morceaux, de compresser cette musique. Le MP3 était hors de question, et donc ça s'est replié sur des systèmes de MIDI. Et donc le MIDI a permis de faire ces musiques-là, mais le MIDI a aussi quand même certaines limites dans ce qu'elle peut faire au niveau son. Et à l'époque, eh bien, il fallait pouvoir avoir un son qui était assez compressé pour, encore une fois, pas prendre de place. Le MIDI fait fonctionner des sortes de ce qu'on appelle des sound fonts dans le milieu du jeu vidéo. C'est des fonts sonores. Ces fonts sonores doivent être fabriquées, et ces fonts sonores doivent pas prendre trop de place non plus pour pouvoir ensuite être intégrées dans la console, et pour pouvoir faire de la musique sans que ça prenne trop de place. Ce qui est très intéressant avec cette origine-là de la musique de jeux vidéo, qui est née de ces limitations, c'est qu'après, c'est devenu un style, c'est devenu un choix artistique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a encore des jeux vidéo qui sont produits donc de manière moderne, avec toutes les technologies actuelles qui sont disponibles, tous les moyens actuels disponibles, mais qui décident tout de même d'utiliser une vieille esthétique, une esthétique qui paraît ancienne, qui paraît datée, qui pourrait pas venir des années 90 ou des années 2000, début 2000 peut-être. Et cette esthétique donc est devenue vraiment quelque chose d'associé à la musique de jeux vidéo. C'est quelque chose qu'on retrouve quasiment que dans la musique de jeux vidéo, qui commence à s'étaler un petit peu dans certains milieux, donc certains milieux comme un petit peu la musique électronique, qui parfois prend un peu des aspects de musique de jeux vidéo. Mais en tout cas, il y a vraiment ce lien à cette histoire qui a fait naître presque une nouvelle musique qui est expérimentale, qui partait de rien et qui s'est développée au fil des consoles, au fil des évolutions techniques pour pouvoir former ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans des jeux nouveaux, des jeux plus développés. Et voilà. Donc, par exemple, En plus, comme les jeux s'influencent les uns les autres, plus on avance, plus forcément les nouveaux créateurs de jeux vidéo ont des références. On pourra... moi, j'ai parlé de Earthbound, et Earthbound était un jeu qui, pour l'époque, en plus, était encore était particulièrement expérimental, même dans ses thèmes, dans la manière dont il se déroulait, dans son esthétique. C'était quelque chose de très nouveau à l'époque et qui était d'ailleurs jamais sorti en Europe, Earthbound. C'est un jeu qui est sorti au Japon sous le nom de Mother 2 et aux États-Unis sous le nom de Earthbound, et qui a influencé un grand nombre de personnes qui, à l'heure actuelle, font des jeux vidéo. Donc on parlera par exemple de Toby Fox avec Undertale, qui lui aussi a cette esthétique musicale très particulière qui fait penser à Earthbound. Il y aura aussi par exemple Humaniki, qui est un jeu qui est développé, qui a été fait par Kikiyama, et qui se passe dans une sorte de monde des rêves, et qui, pareil, utilise des sonorités, des sujets, des thèmes très expérimentaux, et qui sont uniques aux jeux vidéo. C'est quelque chose qui n'existe pas dans un autre milieu que le jeu vidéo, car le jeu vidéo est quelque chose qui permet une forme de narration, une forme de communication qui est unique en son genre. Parce que ben, le joueur joue directement le personnage principal. C'est pas comme dans un film. Donc voilà, après ce petit moment de discussion autour de l'origine un petit peu de l'esthétique de musique de jeux vidéo, je vais passer sur une petite diffusion d'un morceau qui m'est très cher. C'est One Winged Angel par Nobuo Uematsu. Ce qu'il faut savoir avec One Winged Angel, c'est que c'est un morceau qui fait partie des premiers à avoir utilisé des samples de voix, qui prend beaucoup de place d'ailleurs sur la mémoire du jeu, mais le compositeur, donc Nobuo Uematsu, voulait vraiment intégrer quelque chose dans cette composition, et on va écouter ça tout de suite. Je tiens à dire que la version que je diffuse est la version originale, parce qu'il existe de nombreux remixes qui ont été donc enregistrés avec des orchestres, qui ont été remasterisés avec une esthétique beaucoup plus moderne et beaucoup plus réelle, on va dire ça comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement la version originale avec la soundfont de la console. Donc, bonne écoute, et on se retrouve après cette diffusion de One Winged Angel. We'll be right back. On est de retour en direct sur Radio Galère, sur le 88.4, dans la régie où je tiens à vous dire qu'il fait très chaud et j'ai très chaud, mais sinon voilà. Donc vous venez d'écouter One Winged Angel, comme j'ai dit tout à l'heure, composé par Nobuo Uematsu. Ce qu'il faut savoir, évidemment, sur One Winged Angel, dans le cadre de cette petite émission, ou en tout cas cette première partie d'émission sur comment est-ce que les limitations techniques ont défini une esthétique de musique de jeux vidéo, c'est que One Winged Angel vient du jeu Final Fantasy VII sur PlayStation 1, qui est sorti en 1997, et c'est un morceau qui est donc un peu le point final, le climax du scénario de Final Fantasy VII. C'est un morceau qui est très important, c'est un morceau qui est un peu la représentation même de la fin du jeu, et du coup c'est un morceau qui a marqué beaucoup de personnes. Et Nobuo Uematsu, quand il a composé One Winged Angel, a été très inspiré par Le Sacre du Printemps, par Psychose aussi, la musique de Psychose, la scène de la douche avec les violons là qui grincent, et cette utilisation des instruments, cette utilisation des sons dans la console était assez nouveau. Ce morceau est assez impressionnant pour l'époque. One Winged Angel, donc, comme vous avez pu l'entendre, utilise ces voix qui sont pas de très bonne qualité quand on les écoute toutes seules, mais qui, avec le tout de la musique, donne quelque chose de quand même assez impressionnant. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez impressionnant, personnellement, je ne sais pas pour vous. C'est cette voix qui était nouvelle à l'époque, qui a beaucoup marqué les gens. C'est cette utilisation-là dans de la musique. Habituellement, les voix étaient utilisées plutôt pour des personnages ou pour d'autres choses, mais en tout cas, cette voix qui apparaît soudainement, cette espèce de chorale qui apparaît, est nouvelle. Elle est, on pourrait le dire, dans le cadre de la musique de jeux vidéo, elle est expérimentale. Cœur, l'utilisation du cœur, c'est loin d'être expérimental dans la musique traditionnelle, on va dire la musique classique, où depuis toujours la voix est utilisée dans la musique, mais là c'était quelque chose de très nouveau, c'était quelque chose qui était jamais entendu avant. Et c'est ce qui fait que One Winged Angel est un exemple assez intéressant par rapport à l'histoire de la musique de jeux vidéo. C'est que c'est presque une démonstration de la manière dont, comme le jeu vidéo est un milieu qui est très jeune, ça a commencé dans les années 80, c'est un média qui est très jeune, tout ce qui est nouveau, même si c'est pas forcément nouveau dans d'autres milieux, c'est expérimental dans ce milieu-là. Et il y a toujours une recherche dans le jeu vidéo de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui n'a pas été fait. Et comme c'est un milieu qui est nouveau, et ben cette recherche de la nouveauté se fait de manière assez naturelle et se fait toujours dans la recherche d'aller au-delà des limitations techniques, de détourner des problèmes, de trouver des solutions, comme le cinéma, comme le cinéma quand il a commencé à naître, comme tout l'art, en fait, tous les arts qui se sont développés, qui ont toujours commencé quelque part et qui ont toujours cherché à faire de la nouveauté quelque part pour atteindre le point où on en est actuellement. Et c'est ça qui fait la spécificité du jeu vidéo et qui fait mon intérêt pour la musique de jeux vidéo, forcément. Voilà, donc One Winged Angel, que je vous recommande d'ailleurs d'écouter sur des versions plus orchestrales, si jamais vous voulez, si jamais le côté un peu limité, on va dire, des sons de la PlayStation vous rebute un petit peu. Je recommande quand même d'écouter du coup les versions orchestrales, parce qu'elles sont vraiment très belles et c'est un morceau qui vaut vraiment le coup d'être écouté. Donc voilà, c'était pour ma petite tangente sur One Winged Angel. Maintenant, donc, je vais passer sur un morceau de transition qui va me permettre de faire donc une petite transition, comme le nom l'indique, entre comment est-ce que l'expérimentation dans le jeu vidéo a formé une forme d'expérimental dans la musique de jeu vidéo, et comment est-ce que les limitations techniques du jeu vidéo ont poussé à l'expérimentation de nouvelles choses, à, sur le coup, une exploration de ce qui est considéré plus traditionnellement comme de la musique expérimentale. Quelque chose qui, on va dire, a jamais été fait avant, ou qui est très nouveau, et où les compositeurs se lâchent, on va dire, pour tester des nouvelles choses. Là, je vais diffuser un morceau morceau un peu de transition, c'est-à-dire qui sonne expérimental à l'oreille, même si on tient pas en compte le côté limité techniquement par les anciennes consoles, et qui va nous permettre d'arriver sur la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire juste la musique expérimentale dans le jeu vidéo, et je vais me concentrer d'ailleurs particulièrement sur la musique dans Splatoon, que je présenterai après. Mais tout d'abord, une diffusion du thème de The Great Bay Temple de The Legend of Zelda Majora's Mask. On se retrouve après cette diffusion. Cette petite diffusion est maintenant terminée. Et évidemment, comme peut-être certaines personnes qui écoutent s'en sont peut-être doutées, je n'ai pas diffusé ce morceau juste pour le pour le plaisir. J'ai diffusé ce morceau parce que il faut que je dise quelque chose avant de commencer ce petit passage sur la musique expérimentale dans le jeu vidéo. C'est que dans le jeu vidéo, il ne faut pas oublier quelque chose de fondamental, c'est que chaque musique a un contexte. Parce que donc c'est comme une musique de film a un contexte par rapport à ce qui se passe à l'écran, c'est le principe de la musique à l'image, et le jeu vidéo aussi a ce contexte-là, mais ce contexte est moins, est un peu plus particulier que dans le cinéma, parce que, ben, comme j'en avais parlé dans la première émission, pour ceux qui n'ont pas écouté la première émission, elle est sur le site de Radio Galère, dans la catégorie stage et service civique. Voilà, c'était mon petit instant publicité, hein, pour moi-même. Mais du coup, comme j'en avais parlé dans la première émission, la musique de jeux vidéo est adaptative et elle s'adapte au joueur, à ce qu'il est en train de faire. Et forcément, eh bien, ça va influencer sur la manière dont la musique est construite. Et ce contexte, ce fameux contexte dont je parlais, eh ben, il va plutôt se reposer du coup sur peut-être le lieu, peut-être sur la situation. Et concernant du coup le morceau que je viens de diffuser, Great Bay Temple, c'est donc un thème qui se diffuse dans une sorte de une exploration d'un donjon qui prend l'apparence d'une sorte de vieille usine avec des turbines un peu partout qui se passe, c'est une usine qui est sous l'eau. Et peut-être que vous avez remarqué lors de l'écoute de ce morceau, eh ben, il y a quelque chose de très cyclique avec des bruits qui paraissent très, très industriels, comme s'il y avait du métal, comme s'il y avait des machines qui sont dans ce lieu. Et c'est ce côté cyclique et ce côté industriel, eh bien, il rappelle en fait justement les turbines qui tournent dans ce lieu. Et ça peut paraître assez étrange à écouter quand on l'écoute sans le contexte, mais dans le contexte du jeu, en général, les musiques paraissent toujours moins étranges. Elles ont toujours ce côté un peu dérangeant, en tout cas dans le cadre de ce thème-là, de The Great Bay Temple. C'est un des donjons les plus étranges du jeu, mais le jeu, Majora's Mask, est un jeu très étrange de base, donc ça paraît presque normal. Mais c'est justement, le compositeur peut se permettre de jouer avec tous ces codes, avec tous ces codes de l'expérimental, mais pour faire quelque chose qui est quand même contenu dans un contexte. Et ça, c'est important de garder en mémoire pour donc la musique et le prochain jeu dont je vais parler, c'est-à-dire la série des jeux Splatoon, parce que l'intégralité de la musique de Splatoon se joue dans un contexte très très particulier. Et la musique de Splatoon en soi est aussi très très particulière. Et avant de faire une petite diffusion, ce sera une diffusion d'un morceau et une réaction de personnes extérieures au monde de la musique de jeux vidéo à cette nouvelle musique que je diffuserai après. Je vais quand même faire une petite introduction au monde de Splatoon, à comment est-ce que l'univers de Splatoon affecte la musique. Et après, ça vous permettra peut-être d'appréhender ce côté extrêmement expérimental de ce que je vais vous faire écouter après, avec un œil différent. Donc, Splatoon, c'est un monde, c'est un jeu qui met en scène des céphalopodes humanoïdes qui sont arrivés sur la surface de la Terre après qu'une apocalypse ait complètement rasé de la surface de la Terre l'intégralité de l'humanité. Donc une montée des eaux extrêmes a totalement éliminé l'humanité. Et c'est le monde marin vient sur la Terre et évolue du coup en dehors de l'eau, mais du coup toujours avec cet aspect très marin, c'est des poissons, c'est des méduses, et du coup c'est des poulpes et des calamars qui sont les personnages principaux du jeu. Donc déjà, comme vous pouvez l'entendre par ce résumé, c'est déjà quelque chose de particulier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de Splatoon et dans le contexte de Splatoon, les céphalopodes qui sont arrivés sur Terre ont retrouvé des artefacts humains, ont retrouvé des preuves de l'existence des humains sur le monde de la Terre, et ils ont décidé de se les approprier, mais sans avoir aucun contexte de comment est-ce que cette culture, comment est-ce que ces différentes cultures, même parce que c'est sur l'intégralité de la Terre, comment ces différentes cultures se sont construites. Et du coup, ces céphalopodes se réapproprient de nombreux codes, mais sans aucun contexte culturel qui est le nôtre. Ce qui donne un effet très particulier quand on joue au jeu, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup d'éléments de nos cultures, mais qui sont mélangés parfois à d'autres cultures, qui sont parfois complètement découpés, recoupés, recollés dans certains contextes qui paraissent assez délirants. Et Splatoon met une grande importance sur la culture alternative. Le premier jeu avait beaucoup de musique qui était inspirée de la musique punk ou du rock. Et les jeux d'après se sont permis d'aller explorer encore plus loin dans plein de styles musicaux différents qui peuvent paraître très marginaux à l'heure actuelle, mais qui du coup dans le monde de Splatoon sont parfaitement normaux. Et forcément, donc il y a une esthétique qui est volontaire dans ce jeu, c'est que c'est un monde qui nous est à la fois familier mais aussi alien, qui est totalement étranger. Et c'est cette manière de représenter notre monde, mais à travers une interprétation différente, qui donne ce côté complètement décalé, et qui est aussi du coup représenté dans la musique. Et donc je vais vous faire écouter un des morceaux de Splatoon 2, du coup, qui s'appelle Octoarmaments, et qui est... je dis rien, en fait, je vais vous laisser écouter, et je vais vous laisser aussi écouter la petite réaction juste après. On se retrouve après cette diffusion. Red.
Pour ma part, ça m'a beaucoup dérangé. J'aime bien, quand j'écoute de la musique, avoir un fil conducteur. Et là, le fait que ça soit tout le temps saccadé, changement de rythme, voilà, ça m'a beaucoup perturbé. Et il était temps que les 4 minutes s'arrêtent.
Alors, moi, ce que j'ai trouvé hyper bizarre, c'est qu'au début, j'arrivais pas à me dire que c'était de la musique. Et c'était hyper bizarre parce qu'en fait, on reconnaissait plein de trucs qui viennent de la musique, qui s'emboîtaient les uns dans les autres. Tu reconnais des voix, tu reconnais même des éléments de type de musique particulier. Il y a des sons qui ressemblent vachement aux sons de jeux vidéo des années 80-90, genre Mario, trucs de plateforme comme ça qui sont très spécifiques. Mais à côté de ça, bah, t'as la guitare, t'as du scratch, t'as du beatbox, t'as plein d'autres trucs comme ça qui viennent s'empiler. Et bizarrement, tout ça fait référence à la musique. Et moi, j'avais, non, mais vraiment, tout le début, l'impression que je n'écoutais pas de la musique. J'écoutais des sons, j'écoutais quelque chose qui était qui créait, ouais, une impression étrange. Il y avait un rythme, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et au fur et à mesure que ça avance, il y a de plus en plus d'éléments qui sont musicaux et qui s'empilent les uns sur les autres et qui font que on finit par, enfin moi j'ai fini par le par reconnaître ça comme une forme musicale telle que moi je peux l'entendre en fait.
Ah bah moi c'est pareil, ça m'a effectivement fait penser aux jeux genre Mario, etc. quoi. C'est t'as ces rythmes là que tu retrouves, quoi. Mais après, du coup, j'étais tellement perturbé que j'ai pas plus analysé, quoi. J'avais qu'une envie, malheureusement, quoi, c'est que ça s'arrête.
Alors moi, ça m'a fait penser à quelque chose d'un peu, alors à la fois quelque chose qui serait dans une course, et ça m'a fait penser à une course gluante. Une course je trouve pas de mots appropriés en fait, parce que j'ai pas de mots appropriés pour ces sons là aussi, quoi. Voilà, ça, course blurp.
Donc je vais vous l'avouer, hein, chers auditeurs, chères auditrices, chers auditorices, c'est que j'ai été un peu méchant. Parce que j'ai vraiment choisi un des thèmes les plus expérimentaux de tout le jeu. Et c'était vraiment la première diffusion que j'ai fait à mes parents. Coucou papa, coucou maman, je passe à la radio. Et je m'excuse de vous avoir fait écouter le truc le plus complexe pour la première fois que je vous faisais écouter de la musique de Splatoon. Mais en tout cas, comme ce qui a été souligné, c'est quelque chose qui est très, qui rend très confus. Et qui en plus, quand on le sort d'un contexte du jeu vidéo qui est pas forcément recevable tel quel. Et c'est ça qui est important aussi dans la musique de jeux vidéo, c'est que il faut penser toujours au contexte. Excusez-moi. Voilà. Et donc, comme ce qui a été soulevé à un moment avec le terme de musique brr, c'est un terme que j'ai beaucoup aimé, c'est que par le biais du son, les compositeurs ont essayé de refléter quelque chose d'un peu humide, d'un peu de gluant, effectivement, qui fait penser à la vie marine, les poissons, les poulpes, les calamars, les méduses, enfin c'est très gluant. Et du coup, il y a une espèce de recherche de son qui correspond à quelque chose de réel, quelque chose qui nous parle, nous, en tant qu'humains. Et qui donne ces côtés extrêmement étranges, qui donne ce côté complètement, eh bien, sur le coup, je peux en parler, quelque complètement d'expérimental. Est-ce que, je suis pas sûre, je suis pas exactement spécialiste de ça, mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est dit, je vais faire de la musique de poisson? Sans doute, il y a sans doute déjà eu quelqu'un qui a déjà fait ça, mais du coup, dans la musique de Splatoon, c'est vraiment que de la musique de poisson, sur le coup. J'utilise le terme de musique de poisson parce que c'est vraiment ce que c'est. Et en plus, dans la musique de Splatoon, il y a plusieurs, en fonction des, on va dire, des espèces, donc si c'est un calamar ou un poulpe ou une méduse ou un saumon, disons, parce qu'il y a des saumons dans le jeu, et ben ça va pas forcément être la même esthétique musicale. C'est-à-dire que non seulement dans le contexte du jeu, ces créatures ont récupéré un contexte humain, enfin des productions humaines sans avoir le contexte, mais en plus eux ils l'ont réapproprié avec leur propre contexte. Et toute cette construction du jeu est très intéressante, et la musique et le son dans Splatoon est très profond. Il y a beaucoup de couches qui sont analysables et qui sont très chouettes et qui permettent vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut vraiment pousser le délire très très loin dans le son, dans le jeu vidéo, parce qu'il y a quelque chose de ça nous fait vivre quelque chose de nouveau, ça peut nous permettre d'avoir accès à peut-être des univers qui n'existent même pas, peut-être des mondes qui n'existent pas, des mondes virtuels. Et il y a cette espèce de d'espace entre le réel et le virtuel qui est notre espace d'interprétation et qui peut être vraiment manipulé, qui peut être modelé par la musique et la manière dont elle est utilisée. Pour continuer sur la musique de Splatoon, du coup, j'aimerais mentionner quelque chose quand même d'assez intéressant qui est en soi en rapport avec la musique, mais qui est aussi en rapport avec la démarche du jeu. C'est-à-dire que Splatoon, c'est un jeu qui est très très apprécié et assez plébiscité par les communautés LGBTQIA+, et qui sont aussi très appréciées par les personnes autistes. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant à analyser dans le cadre de quelque chose d'expérimental, parce que Splatoon est un jeu qui prône l'expression de soi, qui prône le fait d'être soi-même. Tout ce qui tourne autour de Splatoon tourne toujours autour de l'expression l'expression de soi, du fait de pas vraiment prendre en compte peut-être ce que les autres pensent, mais de vraiment avoir son propre style, d'avoir sa propre vie. Et ça se reflète assez dans l'univers du jeu, donc avec cette inspiration très forte de la culture alternative, de peut-être des cultures traditionnelles qui peuvent être, enfin qui sont souvent d'ailleurs, il y a beaucoup d'inspiration de musique traditionnelle du monde, pour un manque de meilleurs termes, malheureusement j'ai pas d'autres termes pour ça. Et du coup, c'est un milieu qui a permis en fait le développement de quelque chose de très spécial. Et c'est encore plus intéressant quand on considère que justement la musique expérimentale s'est souvent développée dans des milieux autistes, queer, marginalisés, d'autres, beaucoup de productions très nouvelles et très expérimentales sont nées dans les marges. Et cette marge se retrouve justement dans la communauté qui joue à Splatoon, dans la communauté qui apprécie Splatoon, c'est-à-dire que ça a vraiment touché quelque chose qui parle aux gens, ce côté d'expression, ce côté de lâcher prise. Et du coup, il y a vraiment, c'était une parenthèse que je voulais faire, que je tenais à faire par rapport à cet univers et à ce monde, parce que pour moi, c'est aussi important de souligner que c'est aussi possible d'avoir un niveau d'expression, d'expression de soi en tant que joueur dans le monde du jeu vidéo et dans la manière dont on se retrouve dans un jeu vidéo. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Et pour continuer sur la musique de Splatoon, je vais vous diffuser une autre musique qui du coup est beaucoup moins beaucoup moins étrange que celle que j'ai fait que j'ai diffusée juste avant. Et pareil avec une petite réaction derrière des mêmes personnes qui ont été interrogées sur le morceau d'avant. Ce morceau c'est Anarchy Rainbow et vous allez remarquer peut-être que la technique vocale dans cette musique, dans ce morceau est très particulière et je vous laisserai peut-être interpréter ça pour vous-même et je vous parlerai après de qu'est-ce que ça reflète. On se retrouve après ça.
Contrairement au premier morceau qu'on a entendu, moi celui-là il m'amuse beaucoup. J'ai l'impression d'être au carnaval, dans une fête. J'ai envie de danser, j'ai envie de chanter. Donc ouais, j'apprécie et je vote pour. Non, j'ai pas repéré les voix, j'ai juste entendu comme un canard, quoi. Ouais, c'est ça, comme un canard, mais je vois pas de. J'arrive pas à rapprocher avec quoi.
Oui, là, on a clairement la musique brésilienne, les sifflets, de rythme un peu batucada, mais une batucada bizarre, quoi, parce que les chants, c'est pas des voix humaines, en fait. Enfin, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a. Pris de l'hélium ou des voix qui sont pas des voix on reconnaît pas d'ailleurs ni de langue ni quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a ce côté festif avec quelque chose d'un peu décalé justement par la voix, mais c'est vrai que là on est dans des repères en fait musicalement en tout cas qu'on identifie bien.
Donc comme vous avez pu l'entendre, c'est un morceau qui a beaucoup d'influences culturelles réelles, basées sur des cultures de notre monde. Ce morceau-là donc utilise à la fois des codes de la musique traditionnelle japonaise, des musiques traditionnelles hindoues et du sud-est de l'Asie, et de la musique brésilienne, du coup. Et c'est encore une fois, du coup, ce mélange de cultures qui est très important dans la musique de Splatoon, et même dans l'univers de Splatoon. C'est un monde qui prône effectivement les différences et la valorisation aussi de soi dans ces différences. Et c'est quelque chose qui donc se retrouve dans cette esthétique musicale. Et vous avez peut-être du coup entendu effectivement les étranges voix qui ont été définis comme une sorte de canard un moment dans l'interview. Et si jamais vous voulez faire le test chez vous, là je vais pas le faire parce que je mets pas de liquide dans la régie, mais en fait c'est comme si vous aviez pris de l'eau dans votre bouche et que vous rinciez un peu la gorge. Ça fait le gargouillis comme si vous aviez de l'eau en fait dans la gorge. Et ce côté un peu aquatique du coup a été ajouté pour faire ce lien avec le fait que c'est quelque chose qui sonne peut-être humain mais qui n'est pas interprété par des humains. Et c'est aussi du coup une forme d'expérimentation, d'avoir essayé de faire des filtres particuliers pour ces voix, d'avoir essayé de jouer quelque chose de complètement alien, qui n'a jamais été fait avant, pour créer cette nouveauté dans ce monde-là précisément. Et la musique et l'univers de Splatoon sont très riches, et je vous recommande vraiment chaleureusement de peut-être vous pencher dessus si jamais ce que je vous ai diffusé vous intéresse, ou si jamais juste vous avez aimé la musique, parce que c'est très 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 large. Il y a du punk, il y a du rock, il y a de l'EDM, il y a vraiment de tout. Et c'est très rafraîchissant, et je tenais à partager ça avec vous aujourd'hui pour aussi peut-être vous avoir fait découvrir quelque chose de différent, quelque chose que vous ne connaissez pas. Et j'ai terminé un peu ce que j'avais à dire, et eh bien un peu en avance effectivement. Et je veux donc remercier une fois encore l'équipe de Radio Galère, parce que du coup là mon stage se termine là. Une fois que j'ai terminé cette émission, j'ai terminé mon stage, et je voulais vraiment vraiment remercier l'équipe de Radio Galère pour leur accueil, pour m'avoir permis de faire ces chroniques là, pour m'avoir aussi appris beaucoup de choses. Et j'espère peut-être vous retrouver, chers auditeurices, sur les ondes à la rentrée prochaine, parce que ça me plaît beaucoup de faire ces émissions-là et de partager ça avec le monde marseillais, on va dire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais sortir de cette régie où je suis en train de me faire dévorer par un moustique qui m'apprécie beaucoup apparemment. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt.